Alors, nous avons un grand bonheur, un grand plaisir aujourd'hui à Radio Boréal, c'est d'inaugurer une nouvelle chronique avec notaire Marie-Josée Saint-Laurent. Marie-Josée, bonjour.
Bonjour.
Quel plaisir de vous recevoir parce que quand j'ai reçu votre document, le premier document sur lequel, d'ailleurs, on devait se tutoyer.
C'est ce que j'allais vous dire.
Oui, alors tutoyons-nous.
Alors, je te tutoie et tu me tutoies.
Et je te tutoie. Bon, ça va faire pas mal plus chaleureux. Oui, j'allais te dire, quand j'ai reçu le premier document où je me suis dit, on va faire quelque chose d'extraordinaire avec cette chronique-là, notre chronique juridique, et je me suis dit aussi, ciel, que nous n'y comprenons rien.
C'est sûr.
C'est compliqué.
C'est très compliqué, mais le but de mes chroniques, je veux vraiment vulgariser pour les gens, pour éclaircir un paquet de choses, souvent des fausses croyances. Donc, je suis là pour ça.
Si tu veux, on va éclaircir autre chose.
Oui.
Notaire Marie-Josée Saint-Laurent, qui est-elle? Depuis quand exerce-t-elle? Et etc.
OK. Alors, je suis née à Amos et je vais mourir à Amos, probablement. J'ai toujours dit ça.
Ouais.
Moi, j'ai fait mes études à l'Université d'Ottawa en droit et j'ai été reçue notaire en juin 91. Donc, je suis dans ma 21e année de pratique.
Ouais.
J'ai pratiqué 8 ans avec le notaire Plante. D'ailleurs, ça me fait tout drôle d'être ici dans ces studios-ci parce que c'est mes anciens bureaux.
Ben oui.
Et oui. Et en 2003, j'ai décidé d'ouvrir mon propre bureau. Donc, ça fait...
En 2003. Il y a déjà 9 ans.
Wow. Oui.
C'était en la 9e année. Peut-être.
Exactement. Donc, oui.
Oui. Et je ne sais pas si ça va te choquer, mais je pourrais te dire que moi, j'ai commencé ma carrière avec un monsieur Saint-Laurent qui était maire de Amos.
Eh oui, c'est mon père. Mon père était là avant moi.
Et ça, c'est le paternel de maître Marie-Josée Saint-Laurent. Bon. Alors, ce point admis, on va travailler avec un document qui s'appelle « Promesse de vente et d'achat entre deux personnes » ou deux organismes, enfin. Mais je me suis demandé dès le départ, mais à quoi ça sert, Marie-Josée, ça, ce document-là? Pourquoi est-ce qu'on en fait un document comme ça?
Bien, une promesse d'achat-vente, c'est pour lier les deux parties. Alors, j'ai choisi ce sujet-là en premier parce qu'on est dans la période où les gens regardent pour s'acheter une maison.
Oui.
Donc, on est dans cette période-là. La promesse de vente et d'achat, en premier lieu, elle existe pour lier les deux parties. Donc, le vendeur et l'acquéreur, en signant ce document-là, ils se promettent l'un l'autre d'acheter et de vendre.
C'est donc pas un document qui va assurer la sécurité d'un par rapport à l'autre. C'est tout le monde, là.
Ben, en fait, oui, ça sécurise le vendeur qui dit « Bon, j'ai plus besoin de chercher d'acheteur, je l'ai trouvé. »
J'en ai un.
Et l'acheteur, il dit « Bon, ben là, je suis certain que c'est cette maison-là que je vais acheter. Il n'y a pas personne d'autre qui va pouvoir l'acheter à ma place. »
Voilà. Bon, alors là. Mais c'est pas mal plus compliqué que ça.
Oui, parce qu'une promesse d'achat-vente, en fait, les éléments importants, ce sont les noms des parties, donc le promettant vendeur, promettant acquéreur.
On appelle ça des promettants.
Promettant vendeur, parce qu'on promet. Exact. Okay. Alors, c'est une promesse. Et donc, l'élément premier, ce sont les parties, donc promettant vendeur, promettant acquéreur. L'élément principal aussi, c'est l'objet de la vente, donc la maison ou le bien. Alors, là, on est plus dans les immeubles, mais ça peut être un bien meuble comme une maison mobile ou simplement un frigidaire ou peu importe.
Marie-Josée?
Oui?
Il y a des gens qui vont te dire, oui, mais le terrain, lui, c'est pas un immeuble.
Un terrain est un immeuble de par la loi.
Aha!
Oui. Donc, tout immeuble, c'est le terrain et tout ce qu'il y a au-dessus.
OK.
Alors, c'est ça la définition d'un immeuble.
Donc, il doit y avoir très assez fréquemment, j'imagine, une promesse de vente ou d'achat là, entre deux personnes pour un terrain uniquement.
Exact. Ça peut être un terrain, ça peut être un immeuble bâti, ça peut être une maison mobile sans terrain.
Uh-huh.
Ça peut être...
OK. Non, ça, c'est important.
Oui. Et l'autre élément important dans une promesse, c'est le prix.
Ah oui?
Le prix et les signatures. Donc, les quatre éléments importants, ce sont les parties, l'objet de la vente, donc ce qu'on vend, et le prix et les signatures.
Bon.
Et là, je veux, dès à présent, mettre en garde les gens qui vont sur Internet chercher des promesses d'achat-vente ou tout autre document.
Ouais.
C'est pas parce que c'est sur Internet que c'est le bon c'est document, réglé, que c'est réglé ça, et que c'est vrai. Oui. J'entends beaucoup, beaucoup de monde venir me dire « Ah, oh, mais j'ai lu sur Internet telle, telle affaire. » Et là, ils me sortent des affaires épouvantables. Là, je leur dis de grâce, n'allez pas croire tout ce qui se retrouve sur Internet.
À
parce
preuve,
que
il y a tellement de fraudes par Internet qu'on ne sait plus où ça va.
Effectivement.
Ça va aller. Là.
Moi, je dirais que la promesse d'achat-vente, bon, quand on achète une maison, on va parler d'une maison, là, c'est un des gros morceaux dans la vie qu'on achète. C'est un événement, c'est supposé d'être un événement heureux acheter une maison. Ouais. Mais ça peut virer au cauchemar parce que souvent, l'erreur des gens, surtout quand c'est leur première maison, ils prennent le formulaire de promesse d'achat-vente comme une formalité juste pour satisfaire les conditions de la banque.
Ouais.
Donc, les institutions financières ont leur propre formulaire de promesse d'achat-vente. Il y en a qui sont complets, il y en a d'autres qui sont incomplets. Mm-hmm. Et les gens souvent croient que si c'est l'institution financière qui leur donne ce formulaire-là, il est bon, on remplit ça, on fait ça à la vitesse parce qu'on est tout énervé parce qu'on s'achète une maison. Mm-hmm. Donc, on signe ça à la sauvette, on remplit ça du mieux qu'on peut, on retourne ça à la banque, formalité remplie, c'est réglé. Mais c'est plus compliqué que ça. Surtout, le contenu des promesses d'achat-vente maintenant est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de troubles, de poursuites et ainsi de suite. Donc, qui fait en sorte qu'on a été obligé de mettre d'autres conditions supplémentaires aux quatre éléments dont j'ai mentionné tout à l'heure.
Ouais.
Parce que pour éviter justement d'autres problèmes. Mm-hmm. Alors là, on pourrait les reprendre un à la suite de l'autre et faire des commentaires par rapport à tout ça.
Ben, c'était justement mon intention parce que je vois, entre autres choses, la désignation, en fait, l'immeuble, là, le bien, là, il faut le déterminer de façon, j'imagine, très détaillée dans le document qu'on va signer. Là.
Oui, bien en fait, ça nous prend l'adresse et le numéro de lot.
Okay.
Le numéro de lot, on retrouve ça sur le certificat de localisation préparé par un arpenteur géomètre ou sur le compte de taxes. Mais de toute façon, je vous dirais, allez voir votre notaire pour le remplir et pour le signer et se faire expliquer avant signature. C'est quoi?
Oui.
Donc, à ce moment-là, quand on est accompagné par son notaire, ça va beaucoup mieux parce qu'on a les explications en même temps qu'on complète le document et on le signe. Et là, on a des chances de bien faire les choses.
Pas mal plus que la bâtisse, c'est le coin de la rue, telle place.
Et voilà, absolument. Il y a aussi dans le détail, on peut inclure aussi des biens meubles ou exclure, parce que, je vous dirais, en 21 ans, j'en ai vu de toutes les sortes. Souvent, un exemple, un lave-vaisselle.
Oui.
Le lave-vaisselle,
il est
souvent, et voilà, et on a remis de la céramique par-dessus le plancher original, et donc là, le lave-vaisselle ne sort plus. On ne peut plus le sortir, sauf si on brise le plancher ou les armoires pour le sortir. À ce moment-là, le lave-vaisselle, qui était un bien meuble, devient un bien immeuble.
Voyez-vous ça?
Donc, on l'inclut parce qu'on a un paragraphe dans la promesse. Puis là, il faut dire que c'est mon modèle de promesse à moi, là. Mm-hmm. Donc, dans les inclusions, on se doit d'inclure le lave-vaisselle pour qu'il reste là, pour ne pas qu'on défasse toute la maison pour sortir le fameux lave-vaisselle.
Oui.
Il y a des éléments, par contre, que je dois mentionner, c'est que un Jane Eyre, une plaque Jane Eyre, un four encastré, des trucs comme ça, si on est capable de les sortir sans briser, ce sont des biens meubles. Sauf si on les met en inclusion. J'ai vu un...
On pourrait les mettre en inclusion.
Absolument. Et l'acheteur a intérêt à les mettre en inclusion.
OK.
Parce qu'il veut avoir ce qu'il a vu quand il a visité la maison. Il y a un petit couple, moi, qui sont venus acheter une maison. Ça n'était pas dans les inclusions. Ils m'ont rappelé le lendemain, tout découragé, pour me dire que le four et la plaque Jane Eyre étaient partis.
C'est parti.
Bien, je leur ai demandé, est-ce que ça l'a brisé quelque chose? Ils ont dit non. Bien, j'ai dit, ils pouvaient partir avec parce que c'était un bien meuble et ce n'était pas dans les inclusions.
Mais ils n'auraient pas pu... si vous les aviez inscrits sur le document comme étant inclus.
Et voilà, le vendeur aurait été tenu de les laisser là.
Oh.
Puis ça peut être aussi pour la corde à linge que j'ai vu il n'y a pas si longtemps, les thermostats électroniques. J'ai déjà vu des thermostats électroniques être enlevés du mur. Ils avaient remis les vieux thermostats et avec un contour de vieille peinture parce que le thermostat électronique prenait plus de place que l'ancien thermostat. Et là, quand les gens sont rentrés, plus de thermostat électronique. Et il y avait vraiment un contour qui n'avait pas de bon sens là, de vieille peinture, donc les couleurs ne fonctionnaient plus. Mmh. Et ça devait rester parce que ça avait brisé.
Hein.
Donc, ça, c'était devenu immeuble par destination. Et il a fallu envoyer une mise en demeure au vendeur pour qu'il rapporte les thermostats électroniques. Alors, vous voyez, c'est plus compliqué
mais
qu'on
pense.
Mais
la mise en demeure en question, Marie-Josée, n'aurait pas été nécessaire si on avait eu un document comme celui-là, exactement, où ces choses-là auraient été incluses.
Exact. Ah. Donc, il y a plein de choses qu'on inclut, des lustres, la remise. La remise, à la limite, c'est pas sur une base de béton. Ouais. Les gens peuvent partir avec.
Est-ce que tu es en train de me dire qu'il faut que le notaire aille visiter avec les...
Non, je n'irai pas jusque-là, mais quand, ouais, quand les gens remplissent la promesse avec le notaire,
ils
le notaire explique ça. un miroir qui est seulement suspendu avec un clou au mur, c'est un bien meuble. Le, ouais, vendeur peut partir avec.
Ouais.
Mais si l'acheteur, il pose la question, mais il dit, moi, j'ai vu un miroir dans le salon, lui, reste-tu là? Ah, bien là, on a des discussions. Puis là, ben, là je pose des questions. Est-ce qu'il est fixé au mur par des vis? Est-ce qu'on peut l'enlever sans briser? Et, ouais, si les gens me disent oui, bien là, je leur dis, bien, si vous voulez l'inclure dans la vente, il faut que ça soit inscrit. Et c'est tout ça qui fait que c'est important de le remplir avec le notaire parce qu'ils ont l'information en même temps qu'on complète le document.
Bref, l'élément désignation, là, puis l'immeuble et puis tout ça, là, il y a des choses à retenir beaucoup.
Absolument.
Passons au prix. Ça doit être aussi quelque chose... Il y a une question, tu sais, qui vient presque automatiquement. Est-ce qu'une fois qu'il est sur le document, il est coulé dans le béton?
Si, bien, c'est sûr que tout peut se modifier si les parties sont d'accord.
Mais, ouais,
mais ça dépend. Hein. Si on veut faire une modification puis que le vendeur n'est pas d'accord ou l'acheteur n'est pas d'accord, bien, désolé, le document qui a été signé, c'est celui qui va être appliqué.
OK.
Vous vouliez... Oh, mon Dieu, j'ai failli vous voyez.
Alors, vous voyez.
Tu voulais parler de prix, mais oui, avant ça, on va parler d'un élément qui correspond aussi avec le prix, qui va de pair avec le prix, c'est la garantie légale.
Oh!
Donc, garantie ou sans garantie. Ça, c'est une des grosses questions quand on achète un bâtiment. Alors, et qui va avec le prix. Une vente standard en haut de l'évaluation municipale ou à la valeur municipale, on achète ça avec garantie légale. C'est quoi la garantie légale? C'est une garantie que l'acquéreur, s'il trouve des vis cachés dans la maison,
ouais,
il va pouvoir avoir un recours contre le vendeur pour ça.
OK.
Les vis cachés, ce n'est pas de l'usure normale. Mm-hmm. C'est quelque chose qui fait en sorte que si l'acheteur l'avait su, qui n'aurait pas nécessairement donné un si gros prix au vendeur.
Oh.
Donc, et ce n'est pas non plus, c'est ça, ce n'est pas la vétusté, donc l'usage, ce n'est pas, tu sais, une toiture qui est à refaire, elle est à refaire. Donc ça, c'est pas, on n'a pas de recours contre les vis cachés pour ça.
Mm-hmm.
Il y a aussi le fait qu'un vis caché, si on dit l'acheteur, mais en fait, c'est si un expert avait examiné la maison et qu'il n'aurait pas vu telle affaire, ça, c'est considéré comme un vis caché.
Oh!
OK? Donc, la norme, c'est une vente avec garantie légale et l'exception, c'est une vente sans garantie. Là où on va avoir une vente sans garantie, c'est si le prix est de beaucoup moindre à l'évaluation municipale normale.
Ouais.
Si on paye moins cher, c'est parce que probablement que l'argent qu'on ne donne pas au vendeur, va falloir la mettre sur des travaux de rénovation,
voilà,
pour mettre l'immeuble conforme.
Mm-hmm.
Donc, on achète sans garantie à ce moment-là. Ou un immeuble qui est vendu par une succession. Une succession, ça n'habite pas un immeuble et on ne veut pas perpétuer, non, dans le temps des recours éventuels contre les héritiers.
Mm-hmm.
Alors, une vente d'une maison par une succession, on va faire ça sans garantie.
Sans garantie.
Sans garantie.
Okay.
Ou tout simplement une maison qui n'a pas été habitée, une maison, une reprise de finances, une saisie par une banque qui revend l'immeuble. Nécessairement,
ouais,
cette vente-là va être sans garantie parce que la banque n'a pas habité cette maison-là,
ouais,
et donc peuvent pas savoir s'il y a des trucs qui clochent avec cet immeuble-là.
Et là, s'il y en avait préalablement, tout ça, là, on peut pas... On ne peut pas reculer jusqu'à Mathusalem quand même.
Bien, en fait, le recours contre les vis cachés, il s'applique aux vendeurs actuels, mais, okay, aussi à tous les propriétaires antérieurs.
OK.
Donc, on peut remonter jusqu'au constructeur s'il est encore en vie.
Oui.
OK?
Oui.
Alors, voilà. Donc,
mais c'est tout à l'intérieur de cette garantie-là?
Oui.
Eh bien.
Oui.
Eh bien. Est-ce qu'on a le temps de parler du prix en...
Bien, le prix, c'est sûr, le prix, c'est une négociation du moment où... Parce que là, on parle d'une promesse, c'est pas une offre d'achat acceptée. Là.
On parle de la promesse.
Alors, nécessairement, il faut que le premier temps vendeur, le premier temps acquéreur, se soit entendu sur le prix. Mm. Et on l'inscrit dans la promesse que lorsque les gens se sont entendus vraiment sur ce prix-là.
OK. Ça, je suis devant le notaire. Mon notaire, et le prix, il est X. Puis là, on inscrit un prix.
Oui.
Le type, lui, le vendeur, il ne peut pas rappeler la semaine d'après et dire « Hey, gars, passe à mon affaire, passe-moi te mettre un 5 000 de plus là-dessus. »
Bien, ça arrive souvent que les vendeurs nous rappellent pour nous dire « Hey, j'ai eu une offre supérieure à celle que j'ai signée, je peux-tu me désister? Non. Parce qu'une promesse d'achat-vente peut servir aussi à aller en cour pour exiger soit du prometteur vendeur ou du prometteur acquéreur qui aille chez le notaire et qui signe l'acte de vente.
Okay.
Donc, c'est très sérieux, là.
Cette
promesse-là, elle est très, très sérieuse. Okay. C'est vraiment un engagement qui doit être respecté.
Okay.
La seule exception, c'est si les gens sont d'accord et s'il y a des éléments qui feraient en sorte que le prix offert pourrait être trop élevé par rapport à l'objet. Et ça, on va en reparler lorsqu'on va parler de l'inspection de l'immeuble.
D'accord.
Mais avant tout, vu qu'on était dans le prix, j'aimerais continuer dans cette vague-là.
Oui.
Alors, je vous mentionnerai l'acompte. Dans les promesses d'achat-vente, souvent, il y a une clause qui dit que le promettant acquéreur donne un acompte au promettant vendeur pour lui montrer sa bonne foi.
Mm-hmm.
L'acompte ne peut pas être trop élevé. Parce que s'il y a une hypothèque sur cette maison-là que le notaire doit rembourser, nécessairement, le notaire doit avoir les sous dans son compte en fiducie pour être capable de payer l'hypothèque.
Okay.
Normalement, l'acompte, moi, je dis toujours aux gens, c'est entre 2 et 5 % du prix de vente.
Du prix de vente.
Oui, dépasser ça, c'est beaucoup trop.
OK.
Parce que la clause, ce qu'elle dit, c'est que le promettant acquéreur donne au vendeur un acompte. Mais si le promettant acquéreur décide de ne plus acheter, il perd son acompte.
Ouais.
Si cependant, c'est le promettant vendeur qui décide de ne plus vendre, il doit remettre l'acompte au promettant acquéreur et une somme supplémentaire du même montant à titre de pénalité.
Mm-hmm.
D'où l'importance que l'acompte ne doit pas être trop élevé.
Voilà.
Et la raison pour laquelle la vente ne pourrait pas se faire, bien là, on peut donner toutes les raisons bonnes, la maladie, le décès, etc.
Ouais.
Mais c'est sûr que ça serait vraiment dans des cas extrêmes où on ne voudrait plus acheter, on ne voudrait plus vendre, eh bien, la clause, elle s'applique.
Marie-Josée Saint-Laurent, c'est tout le temps que nous avions, mais il y en aura bien d'autres, des chroniques, et on le savait déjà au départ que cet aspect-là du travail du notaire allait supposer une, sinon deux émissions, peut-être même, on verra, après la deuxième. Ça a été extrêmement agréable, ça a été...
Absolument.
Ça a été fait aussi avec un grand professionnalisme, je dois vous le saluer. Et puis, ben Marie-Josée, merci, on se retrouve à la prochaine chronique mardi prochain.
Parfait.
Merci, bonne semaine.
Merci.